a été jugé sain d'esprit par les experts médicaux, ce qui ouvre la voie à un procès pour Nidal Hassan, qui était psychiatre de l'armée de terre américaine. La décision d'un éventuel renvoi en cour martiale est désormais entre les mains de l'état-major. Et puis après une autre fusillade, celle de Tucson dans l'Arizona le 8 janvier dernier, l'état de Gabriel Giffords, élu démocrate au Congrès et grièvement blessé lors de la fusillade, s'améliore. Un état même jugé satisfaisant par ses médecins. 6 personnes sont mortes dans cette fusillade devant un centre commercial. Le fisc s'intéresse de près à Johnny Hallyday. Selon le Canard enchaîné, le fisc et la police ont mené début décembre une série de perquisitions fiscales chez des proches de Johnny Hallyday. Les services fiscaux ont effectivement demandé à un juge de Nanterre l'autorisation d'effectuer une visite à domicile. C'est ce que confirme à l'AFP une source judiciaire. Le ministre du Budget, François Baroin, a refusé de commenter l'affaire, invoquant le secret fiscal. Citant plusieurs sources, le Canard affirme que les impôts disposent d'un dossier épais et bien étayé. Il soupçonne le requeur d'évasion fiscale ou d'être le bénéficiaire de montages audacieux.
De l'Afrique enchantée.
Auditrices, auditeurs de France Inter, approchez-vous du poste. J'ai pour vous un remède miracle contre la mauvaise ambiance. C'est l'eau bénite qui vous sortira la tête de l'eau.
Hein, et ça s'appelle comment ton machin?
L'Afrique enchantée. Et c'est moins cher que gratuit.
L'Afrique enchantée, tous les dimanches à 17h.
Et bientôt remboursé par la Sécurité sociale.
France Inter. La différence.
15h05 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Bonjour Daniel Mermet, je propose aux auditeurs de là-bas si j'y suis de consulter les sites internet de l'Assemblée nationale et du Sénat. Vous verrez que 95 députés et 41 sénateurs font partie des groupes d'amitié parlementaire France-Tunisie. Si vous y trouvez un élu de votre circonscription, n'hésitez pas à lui demander s'il avait, lui aussi, sous-estimé les aspirations du peuple tunisien à la liberté. C'était Yves Arène.
Bonjour, France Inter. Je vous remercie pour tout ce que vous faites. Par vous, je remercie le peuple tunisien pour ce qu'il a fait. Et ça devrait aussi rappeler les dirigeants africains. Parce que j'entends que tout le monde dit du monde arabe. Il faut parler de ce monde africain où nous avons des dirigeants qui sont là depuis des années. Vous avez au Togo la famille de Yassine Bey, vous avez au Gabon la famille de M. Gabonais. Il y a encore d'autres pays dans lesquels l'exemple tunisien doit servir d'exemple. Merci et bonne journée à vous.
Oui, bonjour les AMG. Moi c'est Abdel, j'habite dans l'Orne. Et puis je suis traiteur, je fais un petit peu de couscous à emporter et puis des repas. Et je vous assure, depuis un certain temps, j'ai des commandes pour faire des repas de couscous. Est-ce que c'est dû à la révolution tunisienne? Je peux dire merci aux Tunisiens et aux Tunisiennes de m'offrir cette chose-là. Et puis je suis content. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, mais merci les Tunisiens et à bientôt.
Vienne, ici Vienne. Message aux AMG, autres curieux. Après le succès de la venue des Pinsons Charlot il y a 2 semaines, le repère isérois de Vienne remet le couvert et accueille ce vendredi 28 janvier 2011 M. Jean-Pierre Garnier, qui viendra nous causer de la ville, de la petite bourgeoisie intellectuelle et de l'effacement des classes populaires. Tout ça autour de son dernier livre intitulé « Une violence éminemment contemporaine ». Rendez-vous donc ce vendredi 28 janvier 2011 à 19h30 au bar Le Boug, au 1 rue des Carmes, à l'angle de la rue Mermet, à Vienne, dans l'Isère. Allez, salut les amis, à vendredi!
Bonsoir Daniel Mermet, bonsoir à tous les auditeurs de France Inter et de l'émission. Très intéressante l'émission sur Lumumba et sur le Congo belge contrôlé par Léopold II. Mais je rappelle une chose qu'a évoqué une des auditrices de l'émission, c'est premièrement que des leaders comme Lumumba, il y en a eu des dizaines en Afrique, dont notamment Moïse Tshombe ou Niobe par exemple au Cameroun, qui étaient simplement dans la revendication d'une équité de traitement salarial entre les travailleurs européens et les travailleurs africains, qui ont été assassinés dans des conditions obscures, alors même qu'il était représentant de son parti et de son pays auprès des Nations Unies. On parle beaucoup de Sankara, on parle beaucoup de Lumumba, qui sont des figures emblématiques, mais on oublie des dizaines d'autres, y compris dans les anciennes colonies anglaises, portugaises, allemandes et espagnoles. Je rappelle par exemple l'horreur qu'a été la Rhodésie de Jan Smith. Je rappelle l'horreur qu'a été la colonisation allemande au Tanganyika, aujourd'hui la Tanzanie. Je rappelle le massacre des Herero. Je rappelle la révolte des Momo, par exemple, au Kenya, et l'émergence de Jomo Kenyatta comme leader et plus tard président de la République du Kenya. Donc malheureusement, on passe très souvent sous silence des dizaines d'autres leaders africains qui ont été rayés de l'histoire de leur pays. Alors paradoxalement, il est vrai qu'en Afrique, moi qui suis Camerounais, au Cameroun, on parlait beaucoup de Lumumba, alors même qu'on était dans une situation de répression concernant le leader qui, chez nous, justement, avait porté la parole du peuple. Concernant Léopold II, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il avait passé contrat avec un négrier musulman, qui était un des principaux responsables de la traite négrière du côté de l'Est de l'Afrique, qui s'appelait Tipo Tip, sous prétexte officiellement de chasse aux esclavagistes. Léopold II entretenait quand même des relations avec des types qui étaient peu recommandables de ce point de vue-là. À bientôt.
Salut Daniel. Concernant le chien-loup des Cévennes qui a été perdu, je voulais te remercier d'avoir passé le message hier parce que j'ai eu quelques appels. Ce ne sont pas ceux-là forcément qui m'ont aidé, mais en tout cas, voilà, c'était très sympa de ta part d'avoir fait passer le message. Merci encore. Et le chien a été retrouvé donc hier soir, très tard dans la nuit, et il est toujours en vie. Donc, tout est bien qui finit bien. Voilà. Bon reportage et bonne fin de semaine. Au revoir.
Eh ben voilà des bonnes nouvelles. Le chien a été retrouvé grâce à la base. J'y suis, ne dis pas qu'on ne sert à rien. Merci aussi à l'auditeur précédent qui complète ce que nous essayons de comprendre et de faire comprendre sur l'histoire du Congo. Et effectivement, des situations analogues sont fréquentes, ont été fréquentes et sont fréquentes à travers l'Afrique. Merci aussi à cet auditeur qui dit que la Tunisie ne doit pas être un exemple limité au monde maghrébin ou arabe, mais à tous les peuples opprimés, écrasés par des tyrannies, cautionnées et soutenues par des grandes puissances. Aujourd'hui, on continue dans le Katanga et en s'interrogeant sur les raisons pourquoi des gens si pauvres dans un pays si riche, si naturellement riche, on a vu quelques raisons et des conséquences très probables, plus que probables, de l'appropriation de ce territoire par Léopold II. On a vu ensuite toute l'époque de la mort de Lumumba, de l'assassinat de Lumumba. C'était juste à côté d'où nous sommes, à Lumbumbashi. Et puis, depuis, évocation de Mobutu. Et puis, aujourd'hui, dans cette province très, très riche du Katanga, naturellement riche du Katanga, où les gens sont extrêmement pauvres, on va voir, pas tous. C'est notre sujet du jour. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base, j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous, je vous annonce le café repère de la base J'y suis ce mercredi 26 janvier au Zazoubar, 33 place de l'Albinque à Castres, à 19h30. Notre sujet choisi, la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations est lourde de conséquences sur la liberté et l'esprit de l'engagement associatif. En assimilant les associations à des entreprises, ce texte modifie la loi de 1901 et remet en cause une liberté qui a valeur constitutionnelle. C'est Françoise de l'association Tarn Solidarité Chômage qui ouvrira le débat. Au revoir à tous, c'est Anna.
Bonjour Daniel, bonjour à tous les AMG, c'est Pascal de l'Aveyron. Je vous appelle au nom du collectif Touche pas à mon panneau solaire qui s'est créé sur Facebook et qui compte maintenant plus de 3500 membres. Ce groupe s'est créé pour combattre le décret du 9 décembre qui est un décret mortifère pour la filière photovoltaïque en France en ce qui concerne les PME, les TPE qui se sont créés en suivant les conseils de M. Sarkozy et du gouvernement à l'époque du Grenelle, et qui ont donc créé des entreprises, créé des emplois, et qui se font maintenant faucher en plein vol par ce même gouvernement. N'hésitez pas à vous rendre sur le site Facebook et chercher « Touche pas à mon panneau solaire » et venez nous soutenir. On a fait un recours au Conseil d'État. On attend une réponse pour vendredi et on aimerait sauver nos entreprises et sauver nos emplois qui sont en train de se faire détruire sous la pression d'EDF, de M. Proglio et de toutes les filiales qui veulent truster l'énergie en France. Merci à tous, touche pas à mon panneau solaire, venez nous supporter, merci, au revoir.
Ouais, salut Daniel, Jean-Marc, Mehdi Debain. Juste pour signaler quelque chose qui m'étonne et qui me déçoit, c'est sur la page d'accueil de France Inter, un bandeau supérieur qui fait la promotion d'une banque ou d'une pseudo-banque Forex qui nous incite à devenir ou à tenter de devenir trader. Est-ce que c'est bien le rôle de France Inter de promouvoir ce genre d'activité? Salut.
Oui, bonjour. Alors, on ne nous demande pas l'autorisation de nous mettre en vie, qu'on nous laisse donc le droit, le choix de partir quand on en a envie et surtout quand on est dans des états lamentables. Voilà, au revoir, c'est Jacqueline.
Bonjour. Le Café Repère d'Alès en Cévennes aura lieu ce mercredi 26 janvier à 19h. Au lieu habituel, le Vintage Bike Café, route du pont de Grabieux à Alès, face à Monsieur Meuble. Le menu proposé, en sus de nourriture terrestre salée et sucrée, à partager, en sera l'évolution de la justice en France, avec l'intervention de Jean Launay, magistrat au TGI de Nîmes, membre du syndicat de la magistrature. Donc à tout à l'heure, nombreux.
Bonjour Daniel, bonjour l'équipe. Antoine, à côté de Nîmes, je voulais mettre en lumière un fait à propos de l'émission de Daniel sur les creuseurs au Katanga. Les mecs qui sont avec un seau, une pelle et des paniers. À propos du cuivre, le minerai de cuivre, eux, on leur donne entre 200 et 300 dollars la tonne. Moi, je vais récupérer le cuivre dans les déchetteries. Je le nettoie, je le conditionne. Et à moi, on me donne 7000 dollars la tonne. Qui c'est qui est fou là-dedans? Ciao à tout le monde, vive!
Comment ça va le travail alors?
Ça ne va pas.
Il y a de l'uranium là-dedans, il y a du...
Bon, ça ne manque pas. Ça ne manque. Là où il y a du cuivre, il y a toujours quoi? De l'uranium.
Parce qu'on nous a dit que oui, mais il y a des contrôles, on vient voir avec des appareils s'il y a de l'uranium, s'il y a de la radioactivité. Est-ce que vous avez des gars qui passent?
Il n'y a pas d'uranium. Si, en fait, d'uranium, les sangs pourraient nous sortir dans nos nez.
L'uranium, ça fait saigner du nez?
Ouais,
hein. Vous avez des copains à qui c'est arrivé, ça?
En maître prise. Si on travaille, il y a les uraniums, les sangs coulent dans les nez. C'est surtout à Chinkolobwe et à Kaorma.
À Chinkolobwe, si tu travailles autour de Chinkolobwe, tu as le sang qui sort du nez, ça prouve que tu as de la radioactivité.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec Guy Vanctil, Katanga, les mangeurs de cuivre.
Flight number 2, arriving from...
Oh là, qu'est-ce que c'est que tous ces enfants qui courent vers nous?
Ils viennent de quitter l'école, je vois, ils ont vu ma jeep.
Ah. Qu'est-ce qu'ils disent?
Moïse, Moïse. C'est comme si... Vous savez, même mon fils m'appelle toujours Moïse, Moïse.
Voilà, voilà, tous les gamins, voilà les mamans maintenant.
Là, ça, c'est le chef de quartier. Bon, ça, c'est quelqu'un de Mazembe. On va marcher jusqu'au marché là-bas.
Allez, hop.
Ça, c'est le moment du marché.
Aïe, aïe, aïe.
Bonjour, c'est le chef de quartier.
Thank you.
extraordinaire, hein. Alors on sert un peu de caution là. Hein. Il y a deux blancs dans tout ça. Et on fait vraiment... on est très utile.
Oui, on a comme du on nous pousse à nous approcher pour être sur l'image.
C'est pas François Hollande qui aurait autant de succès quand il arrive même en Corrèze. Même en Corrèze. Aïe, 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 la foule s'épaissit. Ah.
Ah, et ce que je viens d'apercevoir, c'est que devant la délégation du ministre, il y a quelqu'un qui brandit un drapeau. Un drapeau avec un crocodile qui a un ballon dans la bouche. Et c'est le club qui appartient aussi au gouverneur et qui vient d'être champion d'Europe, champion d'Afrique des clubs. Le TP Mazembe, tout puissant Mazembe.
C'est chaud, hein. Eh oui, une des figures les plus célèbres du Katanga, même de la République démocratique du Congo, et essentiellement dans cette ville de Lubumbashi, on peut pas échapper à Moïse Katumbi, le gouverneur de cette province, seigneur du Katanga, Moïse Katumbi. Au moins, écrit-on seigneur, S-E-I-G-N-E-U-R, et non pas S-A-I, comme jadis on l'écrivait pour Léopold II. Faut-il voir dans cette seule lettre, passer du A au E, un progrès? Certainement. Moïse Katumbi est un personnage, on hésite entre Chavez et Berlusconi, très très populaire. Là on est dans son luxueux 4x4, il est là avec son chapeau qu'il ne quitte jamais, sauf de temps en temps pour faire un discours, pour haranguer la foule. Ce qui plaît peut-être chez cet homme, d'abord c'est son dévouement, sa présence dans tous les moindres événements du pays, et événements qu'il crée lui-même très souvent. Mais il a une vertu, c'est qu'il est riche. Alors évidemment, les riches plaisent toujours, mais on dit oui, mais comme il est riche, lui, il va moins nous voler. Et c'est peut-être une des raisons de sa séduction. L'autre, c'est qu'il essaye de faire appliquer des règles, il essaye de sortir justement de cette corruption institutionnelle, de faire respecter quelques règlements difficiles arrivant comme ça, d'avoir un point de vue bien précis sur cet homme-là, sur sa politique. Toujours est-il qu'il est là et bien là, et on pense, même s'il ne le dit pas, il ne le dit surtout pas, à lui comme un prochain possible président de ce pays. Mais pour l'instant, non, évidemment, comme d'autres qui ne pensent qu'en se rasant, il n'en parle pas. On va passer un peu de temps avec ce Moïse Katumbi, seigneur du Katanga, qui se balade très souvent. C'était pas le cas avec nous, mais on l'a vu dans des documents, et on le dit et on le répète, il se balade toujours avec un gros paquet de dollars qu'il sort de sa poche et qu'il distribue généreusement aux gens qui viennent l'acclamer et chanter ses louanges. Les gens qui viennent l'acclamer et chanter ses louanges sont dans une sale situation. Ce pays, cette province est particulièrement pauvre alors qu'elle est naturellement riche, faut-il le rappeler. Et c'est que ceux qui avaient trouvé une ressource après l'effondrement de la grande industrie de la gécamine, on reviendra là-dessus, et qui avait trouvé une ressource dans l'occupation de creuseurs, c'est-à-dire creuser dans des veines minières pour extraire essentiellement du cuivre, mais aussi parfois du zinc ou du cobalt, qui avait trouvé cette activité, et bien maintenant sont menacés, sont repoussés par les multinationales qui peu à peu acquièrent ces carrés miniers à travers des contrats léonins. On nous a donné ce, on a entendu ce mot tout au cours de notre voyage au Katanga, contrat léonin, et c'est seulement aujourd'hui que je me suis intéressé de comprendre le sens de ce mot. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat léonin, une clause léonine? Eh bien, c'est une clause qui prive ou attribue à un associé tous les profits et toutes les pertes de la société. Le terme léonin signifie en l'espèce la clause par laquelle on se réserve la part du lion, en référence notamment à une fable de La Fontaine. Donc, dans cette région où nous sommes, eh bien, il y a les lions et leur part, et puis la part des autres, c'est-à-dire les miettes. C'est jusqu'à 16h, c'est là-bas si j'y suis, Katanga, les mangeurs de cuivre.
Saïdi Leona, Martin Jinabu, Robert Kazati, Patuka Bangu, Odi Milambo, Ekanga, Sonny Pinda, Santos Mutobile, Jean-Claude Mukanya, Ghislaine Koulou, le docteur de docteur.
En plein cœur de l'Afrique,
Katanga Business,
des forêts tropicales à perte de vue.
Thierry Michel.
Et sous la forêt, une terre jaune, grise, rouge, riche en minerais.
2009.
Uranium, cobalt, zinc et cuivre surtout, qui a donné son nom à cette province de la République démocratique du Congo, Katanga. Des minerais convoités par le monde entier, tant ils sont essentiels aux pays industrialisés. Et aujourd'hui, indispensable au développement de l'Inde et de la Chine. Dans ce nouvel Eldorado des temps modernes, les investissements et profits se comptent en milliards de dollars, tandis que des dizaines de milliers de creuseurs cherchent de quoi survivre en occupant illégalement les concessions des multinationales minières. À pied ou à vélo, c'est par dizaines de milliers de tonnes que le cuivre et le cobalt sont acheminés vers les comptoirs d'achat d'où ils seront exportés. C'est ce qu'on appelle pudiquement l'économie informelle. Mais informelle, au profit de qui?
Voilà, là c'est la panique parce que dans le village des creuseurs, là, la pluie arrive et ils sont tous en train de remballer, de ranger leurs étals, les marchandises qui sont à vendre. On est secoué, on est secoué dans tous les sens et ça va tomber, hein. Ça va être sérieux, ça va être sévère. Parce qu'ici, en ce moment, cette saison des pluies, il y a des gros orages. Là, il y a un bistrot qui s'appelle Étoile. Il y a un studio photo, il y a absolument tout.
Mais en précaire, quoi.
Ah oui, c'est du super précaire. C'est le gosse qui court là-bas. Espèce de bidonville.
C'est une espèce de ville nomade qui est sur aucune carte, quoi, qui n'existe pas officiellement.
Officiellement, ça n'existe pas. C'est pas un village reconnu. C'est seulement des gens qui sont venus vivre ici parce qu'à proximité, il y a les minerais qu'ils peuvent exploiter.
Tous sont dans l'espoir de gagner quelque chose. Il y a un dancing club restaurant dynamique qui est en train de se replier. Là, il y a les gars qui sont en train de jouer au billard américain.
Sous une bâche orange, toujours.
Bâche orange, toujours.
Et même bâche orange, là.
Voilà, les vélos, les motos, le bazar.
Il y a les ciné vidéos, les salons de coiffure, les pharmacies. Tout est venu ici. Ils ont tout ramené de la ville. Ils ont tout installé ici et ils n'ont absolument plus besoin d'aller en ville. Hein. C'est une autre petite ville ici.
Le ciné vidéo mondial. Le pouvoir judiciaire, il y a une case, c'est le pouvoir judiciaire de la République démocratique du Congo.
Installé ici, oui.
Qui représente une balance avec deux plateaux égaux.
La vie quand même. La vie quand même, des sortes de bidonvilles, de cruiseurs, ces silhouettes de ces gars qui vont à la mine avec la lampe frontale, une pioche au mieux, une pelle en tout cas, et qui vont creuser en espérant tomber sur le filon. Tant qu'on n'a pas trouvé le filon, évidemment, on n'est pas payé. Combien gagne-t-il ? Ben mieux que rien, parce que c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Plus loin des femmes qui lavent les minerais qui ont été extraits, d'autres qui portent des sacs sur le dos. Tout ce monde-là, c'est le monde des creuseurs. Et c'est un monde qui souffre beaucoup en ce moment parce que les multinationales reprennent les carrés de mines, reprennent le terrain, prennent le terrain à travers ces contrats léonins que dont je parlais, et ça se fait au détriment des creuseurs qui voient leur portion, leur territoire à eux, leur territoire d'exploitation de plus en plus réduit. C'est une guerre qui a l'air d'être aujourd'hui très largement perdue par ces creuseurs qui ne savent pas du tout ce qu'ils vont devenir et qui essayent de résister sans guerre de moyens, ni de moyens même de pression. C'est une situation assez difficile, assez pathétique, mais la vie quand même.
C'était qui ces gars-là qui étaient en civil avec des kalachnikovs sur ce terrain ?
C'est celui-là, il est de la garde depuis le week-end. Comme celui-là, il a aussi son arme. Non ?
C'est un carré de mine qui appartient à la famille présidentielle.
Voilà, c'est comme ça qu'il nous présente ça.
Et ce sont des creuseurs artisanaux
qui travaillent sur... Et qui sont censés vendre ces minerais à une personne indiquée.
C'est donc des gens qui travaillent pour la famille présidentielle.
Assurément.
Voilà. À la famille
bon, on va bien passer
là-bas. Là, c'est le village.
Enfin, village, faut le dire vite, c'est des bâches, quoi.
Ouais, mais enfin, c'est un village de tentes qui font boîte, qui font bar, qui font bistrot, qui font les un marchand de godasses.
Mm-hmm. Bonjour. Ça va ?
Ça va ?
Creuseur.
Oui.
Vous venez faire quoi ici ?
Ben, on vient voir un peu comment ça se passe.
Nous, les creuseurs ?
On est journalistes, nous. Ça va le boulot ? Ça va le travail ?
Ça va.
Ouais ? Mais on nous a dit que c'était des mines qui appartiennent à la famille du président ici ?
Oui, oui, le président.
Alors, qu'est-ce que vous trouvez comme minerai ?
Cuivre et cobalt.
Cuivre et cobalt ? Et vous descendez ?
Oui, on descend là-bas toujours.
Vous descendez à quelle profondeur ?
30.
Et tu descends à 30 mètres et tu restes combien de temps au fond ?
Là-bas ?
Oui.
Même 2 jours, 3 jours.
Aïe, 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 vous êtes des hiboux.
c'est notre coutume.
C'est la coutume de rester 2 jours par 30 mètres de fond dans le noir. Qu'est-ce que tu as ? T'as une lampe ?
Oui.
T'as une lampe frontale ?
Ça.
Voilà, tu mets la lampe frontale.
Oui.
Et alors, toi tu creuses et puis il y a les autres qui font sortir.
Oui, oui, des salisaires.
Mais alors, vous ici c'est une mine publique, c'est pas privé ici ?
Oui, c'est privé.
Ah, c'est privé ?
Ah ouais. Oui. Donc, il y a des côtés formés présidentiels, nous avons des Libanais ici.
Ah, on l'a vu, Libanais.
Justement à l'entrée.
Raoul.
Là, on l'a écrit Acacia.
C'est ça.
Ce sont des Libanais.
Acacia, c'est les Libanais.
Mais côté encadrement, vraiment, il faut dire la vérité.
Et l'encadrement est bon ici ?
Non, ça n'est pas bon.
C'est pas bon. Avec les étrangers, les Libanais là-bas,
c'est dur.
On vous emmène, c'est dit, on est en Philippe ici.
Ok, on roule là ?
Oui, oui.
Okay.
Merci beaucoup. Hein.
Merci.
Merci. Merci.
Alors là, on va tenter de demander l'autorisation des blancs qui sont dans les bâtiments construits en dur là-bas pour aller dans leur carrière.
Jafar ! Jafar !
Et là, on entend le bruit des sacs qui sont en train d'être chargés.
Ouais, là, c'est énorme.
Semi-remorque.
Immense semi-remorque. Et ils sont en train de charger.
C'est du cuivre.
Cuivre. Ouais.
C'est du bloc avec du cuivre.
Ça les bien teneur, ça les faible. Comme
bonne teneur, faible teneur, 22-23.
C'est
pas beaucoup ça.
Ça les plus. Goudron. Goudron. Va à la maison. Ah bah y'a le vent. Goudron, va à la maison, hein.
Là, on est dans un des carrés d'exploitation, dans une exploitation qui est gérée au moins par des Libanais qui sont en train de faire travailler
au joli temps des colonies.
Absolument, absolument. Ils ont une façon de leur parler, de les traiter, de les punir, de les repousser, de les menacer, qui rappelle tout à fait le temps ancien des colonies. Là, c'est des gens qui sont vachement équipés, hein, qui ont des gros camions, des pelleteuses, des gros caterpillars. Ils ont leur propre sécurité, ils ont des bureaux en dur. Et tout autour de leur exploitation, il y a des barbelés. Et au-delà des barbelés, il y a les creuseurs artisanaux. Mais on voit que c'est vachement tendu, vachement violent. Et ce qui est assez formidable, c'est que le premier de ces boss libanais vient nous dire bonjour, vachement flegmatique et tout, avec deux grosses liasses de pognon à la main. Ouais. C'est étonnant.
Il n'y a pas très longtemps, il y avait eu un gros soulèvement de tous les creuseurs ici. Ils ont dû fuir les Libanais et autres, avec juste ce qu'ils pouvaient transporter, fuyant grave ici. Ils ont dû tirer à fond en l'air pour protéger les
Libanais, mais qui se sont barrés.
Raoul, justement, c'est Raoul qui l'a protégé, lui, qui le disait.
Ah oui.
Ah oui, mais là tout droit là, on va parler avec les gars là-bas devant, ils sont d'accord pour parler, tu vois.
Ah, ceux qui sont là.
Oui.
Ouais.
Voilà.
Vous venez d'où? De Lumumbashi?
Ali Kassi.
Ali Kassi. Ah, là-bas, plus loin, là?
Oui.
Et vous êtes tous les quatre et vous essayez de survivre?
Oui.
Nous commençons le boulot à 7h30, 7h juste, mais on termine à 20h. Mais on nous donne $3 par jour.
$3 par jour.
Et puis, si tu fais une petite erreur, on t'amène à la police, on te chicote ici.
Te chicote, c'est-à-dire, c'est quoi te chicote?
On tapé. Fouette, hein,
tapé. On te tape, mais c'est comme au temps des colonies, quoi.
C'est comme le temps qu'ils font ici.
Même les creusers.
Les creusers se font taper. Mais pour quelle raison?
Si tu veux réclamer ton droit, en tout cas à ce moment-là, on te fouette. Parce que tu réclames ton droit. Au lieu de te payer comme il faut, maintenant on te chicote, on te fouette ici. C'est parce que si tu demandes ton argent, si tu termines le boulot, si tu réclames donc, tu fais le bruit, en tout cas là, il y a un petit cachot ici.
Il y a un cachot. Oui,
c'est tout précis. C'est
derrière les murs, là.
Oui.
Là, à côté de l'entrepôt, ici, ils font leur cachot à eux.
Ils
bossent.
Même le chauffeur, s'il fait l'horaire, même les opérateurs. Tout. On t'amène là-bas, on te fouette. Maintenant.
Là, vous êtes inquiet, là, parce que vous regardez tout le temps pour voir si vous n'êtes pas en train de vous faire opérer, c'est ça?
Si, nous, ici, on va ici, on chicote ici.
Vous avez des tentes
là? Ouais. Bon, les
gars,
bonne chance.
Ok, merci.
Bon courage.
Merci.
Comment revendiquer ton droit dans ce pays merdique? Où il n'y a jamais eu droit de l'homme, pas prise avec les impudiques friqués. L'histoire nous a déjà beaucoup marqué. Les pauvres sont toujours coupables ici, manisent des parois, même au niveau de la justice. Déjà, l'argent paraît plus important que les preuves. Alors les pauvres innocents pâtissent pour des clous à force de rien avoir. Oh, mon Dieu, pourquoi nous qui n'avons rien n'a pas droit et mot? On nous traite pour des sauvages de notre propre pays. Le mécanisme de l'esclavagisme continue à tourner ici. Mais comment évoluer déjà? Tant que notre pérès pourrait être la haine, de la jalousie. Ainsi que rien ne fonctionne, personne ne fonctionne. On meurt encore des familles, pas de stabilisation de l'alimentation économique du pays. Tous les fonctionnaires ne peuvent pas enrichir, c'est partir de villas, des châteaux.
À l'étranger.
Ouais, pendant que notre pays continue à pourrir. Nos amis ne font que c'est mûrir. Nous, on ne fait que mourir. Mais qui aident les organisations, ça, c'est le pays où chacun travaille pour son bien, son foyer. Envoyer ses enfants à l'étranger pour faire ses études, c'est sûr. Lorsqu'ils auront des retours, ils seront tous engagés. Maintenant, nous, pauvres licenciés, pauvres gradués, comment avoir du boulot sans que tu ne partes à l'étranger? Mais tout le monde pleure, tout le monde a un souci. Mais pourquoi pas vouloir bâtir des grands établissements scolaires dans ton pays? C'est pour notre bien, aussi pour le bien de vos enfants que vous envoyez chacun à l'étranger. Mais c'est bien que de fouiller, maculer bénévolement le niveau d'études de notre pays. Les études paraissent moins importantes, sans valeur. On la gagne par connaissance et par descendance. Que tu sois gradué ou licencié, c'est une peine perdue. Ce qu'on appelle intellectuel, c'est celui qui est friqué. Et c'est que le pays n'aboutit à rien.
Si je savais.
Si je savais.
À la tête de la province,
Katanga Business,
un homme d'affaires nouvellement élu lors des premières élections démocratiques de l'histoire du pays, Moïse Katumbi Chapwe,
2009,
gouverneur du Katanga et président du célèbre club de football, Mazembe. Loin des stades, dans les mines artisanales, les creuseurs sont menacés d'expulsion par les sociétés propriétaires des concessions qui les oblige cependant à leur vendre le minerai.
Aïe, on arrive dans ce petit quartier, dans ce petit marché populaire, marché aux poissons. Regarde toutes les marchandes de poissons qui sont en train de d'écarter les bouches des poissons avec des plumeaux. Tout petit marché populaire. Ah, avec là, c'est les manioc, c'est les fruits. Et là, au milieu de tout ça, c'est la fête. C'est le gouverneur qui rend une visite. Voilà. Devant ce marché. Voilà, là, c'est absolument extraordinaire. Il y a une foule. Une foule avec des danseurs au premier rang, là. Dont un qui a le costume du 50e anniversaire. Et derrière, il y a des chœurs, des gars habillés en... Beaucoup de gars, une fille habillée en bleu, qui danse et qui chante. Et ça, derrière nous, ça a l'air d'être un marché tout neuf. Et j'ai l'impression que le gouverneur va inaugurer ce marché tout neuf. Et devant nous, ainsi, les notables, absolument stoïques, impassibles. Là, on est en train de mettre un micro. Il y a évidemment les médias. Trois gars qui dansent merveilleusement bien.
Ah ouais.
Avec les femmes qui les encouragent, évidemment. Les gars dansent extraordinairement bien. Ouais, oui. Voilà, là, il va y avoir un discours.
Wa baba, wa mama, vijana, tukale mbele kimya, na baba gouverneur, musikie mzuri pa ile fashi, atakata ile riba symbolique, kisha ukata riba symbolique, padri, atapita mbele kubarikia hii angari yetu. Kisha njo tutaweza kuingia pamoja na wakubwa mwanani ordre. Mina mwalika mama burgmestra kui.
Alors voilà, vous avez compris, une inauguration d'un marché couvert dans un quartier de Lubumbashi par le gouverneur Moïse Katumbi et son club de foot, le TP Mazembe, tout puissant Mazembe, et il est très populaire, très aimé par la population, surtout quand il fait des choses comme ça, évidemment, quand il inaugure un petit marché couvert, on comprend que ça puisse faire plaisir aux habitants. Quand on voit la tête du marché qui est là jusque là, c'est des branchages, ça tient pas en l'air, c'est dans la gadoue. Il pleut beaucoup, beaucoup dans cette région. Et la saison des pluies, c'est pas pour de rire, c'est vraiment... Il pleut très, très sérieusement. Donc, évidemment, c'est un moment heureux. C'est une fête, il y a tout le monde, il y a les notables, il y a les prêtres, il y a les chœurs, les danseurs et les danseuses, et puis quelque chose qui fait assez décoratif, deux blancs, les deux blancs, vos serviteurs.
Le ministre provincial des infrastructures s'approche du ruban, prend les ciseaux, et coupe le ruban qui bizarrement est aux couleurs du drapeau de l'Indonésie.
Et voilà la musique repart. Il en garde un petit bout. musiciens s'y remettent. Et les danseurs et les chanteurs s'y remettent.
Ah, il manquait le prêtre qui arrive là, parce que dans toutes les inaugurations, les cérémonies, Moïse tient à ce que des passages de la Bible soient lus. Et là, il a enlevé son chapeau, on fait son signe de croix.
C'est marrant, c'est pendant ce temps-là, il y a toutes les personnalités de la ville qui sont là, mais il y a les deux poules qui sont en train de picorer au pied des célébrités, des personnalités. Je pensais à un moment que c'est la pluie qui commençait, mais en fait, je me prenais des coups d'eau lustrale balancés au goupillon.
Un petit coup d'eau de bénite.
Et ses produits pour que le travail contribue à pourvoir chacun de bien que tu as créé. Que la justice et la charité soient respectées dans les achats et les ventes. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Je suis Manini, comme on va voir le gouverneur et qu'on a sa haute niville, je vais mettre le micro.
On est autour du gouverneur. Ah.
Le gouverneur met son chapeau. La foule l'entoure.
Batota jibo majambo enu. Miri la kaka nsoko, soko njori tunayenga, ina vile. Me, kigoma muna wakia ma problemu mingi. Ya pake le marché, ya le problemu de l'eau potable et l'électricité. Et la route aussi. Kona tinezana. Donc, vous voyez qu'il y a problème à Balabala. Attention, tout le monde n'a pas parlé.
Voilà, inauguration d'un petit marché couvert avec le gouverneur Moïse Katumbi. Il a du travail, ce gouverneur, quand on sait que, selon des estimations locales, fin 2005, au moins les trois quarts des minerais exportés depuis le Katanga l'étaient de manière illicite. C'est dire s'il veut essayer de soutenir ses habitants, le boulot qu'il a pour lutter contre la corruption, la fraude généralisée à tous les niveaux, en sachant qu'une quantité significative de cuivre et de cobalt est exploitée de manière informelle et exportée illicitement, malgré tout ce que ces multinationales qui s'installent peuvent paraître de respectables. Eh bien, là, tout ça se fait d'une manière de corruption, enfin, voilà, exportation illicite, mais avec une façade légale, avec des papiers, mais qui sont faux très souvent. Donc c'est dire s'il a du travail, et il semblerait qu'il ait déjà obtenu pas mal de résultats.
La voiture du gouverneur.
D'accord. Bonjour.
Bonjour, comme ça.
Aïe, aïe, aïe.
Qu'est-ce que vous leur avez promis, là?
Non, je parlais avec eux, parce que j'avais promis le marché, parce qu'ils avaient des problèmes, vous aviez vu le marché qu'ils avaient
oui,
avant.
Oui, c'est un petit marché tout.
Alors, j'avais
dit... Vous venez d'inaugurer un nouveau marché couvert?
Oui, couvert, oui. Bon, c'est un petit marché, ce n'est pas comparable au marché d'Europe, mais c'est quand même... Il y a une petite différence entre le marché qui existait avant et le marché qui est là maintenant.
Ah, avec tous les gens qui courent, là, derrière la voiture. Oui. Mais vous avez promis aussi d'autres choses sur l'eau?
Non, j'ai dit, parce que partout, vous allez voir, à la cité Caravia, c'était plus grave là où nous allons aller maintenant. C'était plus grave. La route, on devait aller seulement avec le 4x4. Alors ici, on a essayé un peu de réhabiliter, comme c'est la saison de pluie. Je venais de dire, l'année prochaine, parce que c'est la seule grande route qui nous reste d'asphalter ici. Et ils doivent
asphalter,
oui.
Comment expliquer que vous habitiez le pays le plus naturellement riche du monde et l'un des pays les plus pauvres du monde, politiquement pauvre, socialement pauvre? Comment expliquer ce...
Ça, c'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes un pays riche, mais très pauvre. La population est très pauvre. On n'a même pas une classe moyenne. La population ici, elle souffre sérieusement parce que pendant 40 ans que le président Mobutu était au pouvoir, qui a encouragé Mobutu de continuer au pouvoir, qui a donné de l'argent qui a été mal investi au pouvoir, c'est toujours le bailleur de fonds. Cette misère, elle est partagée. On peut dire aujourd'hui, les Congolais n'ont pas bien géré. Non, au contraire, les gens qui ont donné de l'argent n'ont pas su gérer, pas cet argent rentré dans des comptes à l'étranger.
C'est-à-dire que pendant 40 ans, le Zaïre, c'était une kleptocratie.
Voilà, c'est ça, c'est ça.
Le berceau de l'humanité est sur la terre. Si tu le vois passer, tu dois le tenir. Ouais. Tu parles trop d'indépendance, c'est bon, tu peux la prendre. Voilà donc passer la corde qui va servir à nous pendre. Ils disent mondialisation, ils ont trouvé une solution. Mais pour l'Afrique tous les jours, des sanctions et punitions. Combien de nos cris dans la mer pour réaliser des performances? On nous parle de toute croissance pour mériter des récompenses. On va te prêter un peu plus, on puisse te tenir un peu plus. Il faut que tu t'en détends un peu plus, les taux se resserrent un peu plus.
La crise persiste, perce leurs entrailles. Comment peut-on parler de dette alors qu'ils n'ont même pas de quoi graille? Et dans leur bureau chacun en grille une, allonge les chiffres un à un, et demande la lune à des gens qui n'ont rien, qui n'ont rien.
La dette est née dans les années 60, 70. 20 ans plus tard, j'ai remboursé 6 fois ce que je devais. Depuis je paye, depuis je paye. Depuis que je paye, j'ai payé 40 fois l'équivalent d'un plan Marshall. Je suis 4 fois plus endetté.
Gunman, c'est mi gosso.
Gogo, Luca. Nyongo et Sila. Ote panarabiso. Pako la reliquia. Togo, Luca. Nyongo et Sila. Ote panarabiso. Pako la reliquia.
Ok, rembourse ta dette, que des miettes qu'on bec. Injecte les US dollars, tu crois contre les prêts de banque mondiale, FMI, nos familles, vive la famine, envoie de la farine au lieu de poser des mines.
Le berceau de l'humanité dérive sur une île, il le dérive. Si tu le vois passer, tu ne dois pas te taire.
Some bell.
juriste au CADTM. On a fondé le collectif Mémoire Coloniale pour faire la relecture critique, cette fois, de cette histoire coloniale, système qui a engendré bien sûr des morts et aussi qui a pillé les ressources naturelles et broyé les cultures au Congo.
Voilà, on se retrouve à Bruxelles dans cette marche avec le groupe Mémoire Coloniale. Pourquoi ? Parce que dans tout ce que nous racontons là, ce que nous voyons, ce que nous vous montrons, on est quand même très souvent dans les effets de quelque chose, dans les résultats de quelque chose. Mais à cela, à cette misère, à ces difficultés, il y a des causes. Et il faut évidemment s'efforcer de remonter aux causes. Souvent, on a oublié dans ce qu'on a raconté, que ce soit à Bruxelles, dans le Kivu, ou ici, dans le Katanga, le rôle des mouvements anticolonialistes belges, par exemple. Ils ont été nombreux et très, très vaillants au moment de la décolonisation dans les années 50-60, aux côtés des indépendantistes congolais. Et aujourd'hui, un mouvement comme le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, apporte aussi son aide et milite pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Et on trouve des militants et de ce mouvement jusqu'à Lubumbashi. Là, on est à Bruxelles. Et voilà une explication supplémentaire de ce qui est très difficile pour nous à comprendre, ce que comprennent très très facilement en Afrique, qu'on comprend très facilement en Afrique ou en Amérique latine, le principe de la dette.
On n'imagine pas tout le pillage qui a été fait au détriment du peuple congolais et qui se perpétue encore aujourd'hui après l'indépendance entre guillemets du Congo en 1960, puisque on continue de piller les ressources naturelles du Congo et les Congolais ne tirent toujours pas profit, que ce soit des ressources comme l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, etc. etc. Et donc finalement on est aujourd'hui dans une situation néocoloniale où la domination a toujours lieu, et la domination elle est un peu plus invisible, mais elle se fait toujours via notamment des mécanismes comme la dette, puisque la dette c'est un instrument de transfert des richesses du sud vers le nord, du Congo vers les pays occidentaux, mais c'est aussi un instrument de domination politique, puisque derrière chaque allègement de dette congolaise se cachent des conditionnalités, des politiques qui sont imposées par le FMI, par la Banque mondiale, par le Club de Paris, qui vise à privatiser le secteur des ressources naturelles.
Alors pour revenir à la question de la dette, qui est le principal instrument de l'emprise que peuvent avoir les institutions internationales sur la politique qui est menée en RDC, cette dette, elle était en partie contractée sous Mobutu, sous le précédent dictateur qui était l'allié, l'homme de main des puissances internationales, y compris les États-Unis.
Oui, il faut savoir que la dette que aujourd'hui les Congolais continuent de payer, c'est la dette héritée de la dictature de Mobutu. Donc c'est une dette qui, évidemment, n'a pas profité à la population. On sait très bien que Mobutu détournait systématiquement les prêts qui lui étaient octroyés par les métropoles occidentales, et les métropoles occidentales le savaient. Pourquoi ? Parce que c'était la période de la guerre froide et Mobutu était un rempart contre le bloc de l'Est, et donc il fallait soutenir Mobutu, et ça passait par des prêts, et c'est ce qui a gonflé la dette du Congo. Et aujourd'hui, cette dette n'a pas été annulée comme elle aurait dû l'être, puisque c'est une dette qui répond clairement à une définition juridique en droit international qui est la doctrine de la dette odieuse. Donc la doctrine de la dette odieuse dit que si la dette a été contractée par une dictature sans bénéfice pour la population et avec la complicité des créanciers, c'est le cas. Donc le Congo réunit les trois conditions. C'est une dette odieuse, donc une dette nulle en droit international et qui doit donc être annulée totalement et sans condition. Et pourtant aujourd'hui, la dette continue à peser sur le social, sur la population congolaise, et elle n'a pas été annulée contrairement à ce que certains médias le disent.
Dans un pays où il n'y a pas de route, pas d'infrastructure.
Exactement, dans un pays qui manque de tout, eh bien on va privilégier le remboursement de la dette. Ça, c'est non négociable. Et pourtant, les besoins humains, au niveau juridique, ont la priorité sur les obligations financières, sur les besoins des financiers. Ça, c'est là, je m'appuie pas uniquement sur la moralité, mais sur le droit international. Les États ont l'obligation de privilégier les besoins humains fondamentaux avant les obligations financières. Et on a bien vu, dans le cas du Congo, que ces obligations financières, finalement, elles ne sont pas valables, puisque on leur demande de rembourser une dette odieuse, une dette illégale.
Et ce sont souvent les mêmes pays qui sont intéressés à avoir accès aux ressources dont regorge le sous-sol congolais.
Exactement. Et on l'a bien vu avec la décision en 2009 de ce même club de Paris. Donc, c'était opposé à un allègement de dette parce que le Congo avait décidé de revoir des contrats miniers. Des contrats miniers qui liaient des pays comme le Canada et les États-Unis principalement. Et donc, le Canada et les États-Unis ont utilisé l'arme de la dette pour faire pression sur le Congo en lui disant « Si tu t'attaques aux contrats qui touchent les multinationales canadiennes et américaines, on refuse de t'alléger la dette. » Donc on voit bien que la dette, c'est une arme qui n'est pas simplement financière, c'est une arme politique, économique et souvent utilisée au bénéfice des multinationales occidentales.
Voilà, merci à Renaud Vivien du CADTM. C'était un reportage avec Guy Vantil. Merci aux mineurs de Lucha. Merci à Jules, à Moïse Katumbi, Kachinde Chongo, Serge Kayembe, Luc Mukendi, Tom Noubi. Le film et le livre Katanga Business de Thierry Michel avec Jean-Louis Moreau et Colette Brackmann sont disponibles aux éditions Luc Pire depuis novembre 2009. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Jean-Philippe Jeanne et Ronan Mahé, Koy Nguyen et Franck Adhéraire ont réalisé cette émission assistée d'Agnès Le Bot et Marina Touyez attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis. 01 56 40 37 37.
Nous sommes au Futuroscope pour vous parler de l'attraction imaginée par Luc Besson, Arthur l'aventure 4D, un vol à dos de coccinelle au pays des Minimoys.
Ça va, regarde un peu devant toi et appuie sur le champignon.
Un concentré technologique unique au monde pour vivre le grand frisson.
Oh, et c'est normal qu'on fonce droit sur une grosse toile d'araignée.
Maman!
Au Futuroscope, découvrez Arthur l'aventure 4D, l'attraction préférée des visiteurs. Toute l'année, le séjour Parc plus Hôtel est à partir de 49,50€ par personne. Futuroscope. Offre soumise à condition, consultez futuroscope.com.
16h40 sur Inter, on se retrouve demain à 15h. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut!
Le rapport sur les conflits d'intérêts est à peine rendu que Nicolas Sarkozy annonce le dépôt d'un projet de loi dès cette année. Selon un communiqué de l'Élysée, le texte aura pour but de promouvoir une véritable culture de la déontologie dans la vie publique française. Certaines mesures du rapport de la commission Sauvé seront reprises. Les auteurs du rapport préconisent notamment que les principaux acteurs de la vie publique se plient désormais à une déclaration d'intérêt au moment de leur prise de fonction et également que les membres du gouvernement ne puissent plus cumuler leur fonction avec un mandat exécutif local, comme celui de maire, ou des fonctions de direction dans un syndicat, une association ou un parti politique. On ne sait pas pour l'instant quelles mesures seront retenues. C'est une première. La cour d'appel d'Angers confie un enfant né sous X à ses grands-parents. Le tribunal a annulé l'arrêté qui faisait de la petite fille, aujourd'hui âgée d'un an et demi, une pupille de l'État, et ce au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est donc l'aboutissement inattendu d'un long combat judiciaire pour Isabelle et Pascal Auger. Combat engagé malgré l'opposition absolue de leur propre fille, la mère de l'enfant. Le commissariat de Cergy dans le Val d'Oise lance un appel à témoins. Deux sœurs, l'une âgée de 12 ans et l'autre de 13 mois, ont disparu depuis hier midi de leur domicile. Les précisions de Julie-Marie Lecomte.
C'est vers midi et demi qu'un voisin a aperçu les deux enfants pour la dernière fois. Rose Kerly, une fillette de 12 ans qui souffre d'un retard mental et ne va pas à l'école, et Elisabeth, un bébé qui ne marche pas encore. Il n'y avait personne pour les garder quand elles ont quitté le domicile familial. Leur mère, qui part travailler très tôt le matin, les avait confiées à l'aînée de ses filles. La collégienne devait les conduire chez la nourrice avant de partir en cours, mais la grande aurait refusé de la suivre. L'aînée a donc laissé les petites seules à la maison. Une centaine de policiers tentent actuellement de quadriller la ville nouvelle de Cergy avec le renfort de chiens de piste. La mairie a fourni la liste des bâtiments vides de la ville au cas où les deux disparus y auraient trouvé refuge. À Cergy, Julie-Marie Lecomte, France Bleu pour France Inter.
Et toute personne susceptible d'apporter des éléments ans à l'enquête et prié de contacter le commissariat de Cergy. De la prison avec sursis et des amendes pour 7 militants anti-nucléaires. En novembre dernier, ils avaient bloqué à Caen un train de déchets radioactifs à destination de l'Allemagne. Ces militants du groupe d'action non-violente anti-nucléaire, 6 Français et 1 Allemand, écopent d'un mois de prison avec sursis et de 1 000 à 1 500 euros d'amende. Ils devront en outre payer solidairement 20 500 euros de dommages et intérêts à la SNCF. Les prévenus avaient plaidé un acte de désobéissance civile. Les sénateurs réunis en commission des lois rejettent l'intégration du contrôleur général des prisons dans la nouvelle autorité de défenseur des droits, autorité qui doit aussi regrouper la HALDE et le défenseur des enfants. La loi doit passer en deuxième lecture au Sénat. En Tunisie, la colère de la rue s'exprime aujourd'hui à Sfax, la deuxième ville du pays. Des milliers de manifestants ont à nouveau réclamé la démission du gouvernement de transition. La centrale syndicale UGTT avait appelé à la grève générale dans la ville. Pendant ce temps, alors qu'on attend toujours le remaniement ministériel annoncé, la justice tunisienne annonce un mandat d'arrêt international contre l'ancien président Ben Ali et son épouse Leila Trabelsi. Ils sont poursuivis pour détournement de fonds. Et puis en Égypte, alors qu'on parlait en début d'après-midi de quelques dizaines de manifestants seulement. Selon l'agence Reuters, des milliers de personnes se sont à nouveau rassemblées devant le palais de justice dans le centre du Caire et des affrontements ont opposé policiers et manifestants dans la capitale ainsi que dans la ville de Suez. Et puis elle était à peine revenue dans la compétition. La joueuse de tennis belge Justine Henin, ancienne numéro 1 mondiale, met à nouveau un terme à sa carrière et ce en raison de problèmes récurrents au coude droit.
Demain, dans Service public.
Connaissez-vous la procrastination? Pourquoi toujours remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Où l'on parlera également de l'éloge de la lenteur. On peut en débattre tous ensemble sur franceinter.com.
Service public avec Isabelle Giordano, du lundi au vendredi à 10h. Une autre manière de vivre ensemble. France Inter, partenaire de Serge, le nouveau magazine de la chanson française. 116 pages d'histoires de chansons et de chanteurs. Au sommaire, Raphaël, Benjamin Biolay, Gaëtan Roussel, rencontres passionnées autour d'Alain Bachung. Entretien exclusif avec Francis Cabrel. Juliette révèle ses dessous chics. François Morel s'entretient avec Georges Moustaki. Audrey Pulvar aime Souchon. Serge, à lire actuellement et à retrouver dans les émissions de France Inter.
France Inter. La différence. 16h05 sur France Inter, l'heure de votre rendez-vous avec Frédéric Lodéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Corinne. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous. Un très long coffret de 103 disques vient de paraître, consacré à des enregistrements du fameux Yasha Heifetz. C'est chez Sony Classical, qui représente la marque RCA, marque ancienne, mais distribuée par Sony Classical. Et voici donc ce personnage incroyable, je vais le décrire en quelques mots. Pour tous les amoureux de la musique, Heifetz, c'est la légende même, un violoniste russe naturalisé américain, né à Vilnius, en Lituanie, donc c'était encore la Russie à l'époque, date officielle de naissance le 2 février 1901. En réalité, c'est 1899. Peut-être un peu de coquetterie de sa part, ou je sais pas, un peu de distraction de la part de ses parents. Plutôt coquetterie, hein. Et mort à Los Angeles le 10 décembre 1987. Et il était fils de violoniste lui-même. Le père jouait au théâtre de Vilnius. Et ce jeune Yasha Heifetz a pris ses leçons à l'âge de 4 ans, les toutes premières avec son père. Ensuite, il est allé au conservatoire. À 6 ans, un grand premier prix lui permet de débuter avec le concerto de Mendelssohn, un enfant prodige déjà connu, il est entendu alors qu'il a 8 ans par Leopold Auer, le fameux professeur au conservatoire impérial de Saint-Pétersbourg. Auer est émerveillé par les dons de l'enfant et la carrière de Heifetz va devenir colossale avec un K, si on veut, pour rire. Et il aimait bien rire aussi quelquefois, malgré les apparences. Hein, il avait toujours en jouant un visage imperturbable, mais dans la vie, il savait se lâcher, comme on dit aujourd'hui. C'est vraiment le violoniste. On dit toujours, il y a deux très bons violonistes, il y a le premier, il y a le deuxième, et puis puis il y a Yasha Heifetz. Bien, le voici dans un enregistrement un peu ancien pour nous, mais dans ce grand coffret RCA Sony Classical, il y a des disques beaucoup plus vieux encore, un peu difficile à passer à la radio, ça gratouille, mais là, en 47, on peut quand même largement profiter du talent de Yasha Heifetz dans une pièce rigolote, un petit pastiche de William Kroll, banjo et violon.